Un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la physique est une matière qui vous rebute. Georges Charpak va y remédier. Prix Nobel de physique en 1992 pour ses travaux sur l'invention et le développement des détecteurs de particules élémentaires. Georges Charpak, également membre de l'Académie des sciences depuis 1985, sait se mettre au niveau de son auditoire et arrive à rendre accessible et passionnant un thème complexe, la physique des particules. Georges Charpak, qui exerce actuellement au CERN, Centre européen de recherche nucléaire, a donné une conférence devant des lycéens grenoblois quelques mois après l'obtention de son prix Nobel. Canal Académie retransmet l'intégralité de sa communication grâce à l'enregistrement sonore réalisé par le CERN.
J'ai dû faire des discours devant des reines et des rois et des princesses, mais le rire un peu sardonique et ironique de mes ancêtres se retournant dans leur tombe, dans leur petit village, m'aidait à surmonter ça sans difficulté. J'ai dû faire une quinzaine d'exposés devant des physiciens. Ils ont des fois la dent dure, mais j'ai la peau dure aussi. Mais alors, vous êtes les premiers lycéens que je dois rencontrer, et je vous imagine avec des dents pointues. Et j'ai viré tous mes transparents de mes discours antérieurs en me disant « il faut que je fasse quelque chose de nouveau ». Et là, je ne sais pas très bien où j'en suis. Je n'ai pas beaucoup l'habitude des cours aux lycéens. Il y a 15 ans, pris d'une mauvaise conscience, j'ai voulu faire un cours pendant un semestre en première année de médecine, un cours de physique. J'ai invité mon fils qui était en deuxième année à assister au cours. Et à la fin du cours, je l'ai regardé. Il est au fond de la salle et il m'a fait comme ça. Il est vrai que comme je voulais faire quelque chose d'exceptionnel, j'avais préparé une expérience à faire en cours et l'avais complètement ratée. Alors, me voilà. Et comme il fallait que je vous fasse cette conférence, j'ai voulu la faire différente de celle que j'avais faite à Stockholm. J'ai été trouver le service du CERN spécialisé dans le contact avec le public et je leur ai dit « faut m'aider ». Ils m'ont dit « Georges, c'est facile. Tu commences au Big Bang ». Et tu arrives rapidement à maintenant au CERN, et le Big Bang, c'est là qu'on fait les fortunes avec les best-sellers, et puis ça intéresse tout le monde, et tu prends aucun risque. Alors, ils m'ont donné des transparents, ils sont en anglais, je m'excuse, mais, et comme vous voyez, c'est la température de l'univers en fonction du temps, depuis le premier millionième de seconde avant le Big Bang, il y a 15 milliards d'années, jusqu'à maintenant. Et il y a quelques événements là, au bout de 100 secondes, il y a des noyaux qui sont créés, et puis 300 000 ans après, les atomes étaient faits et la lumière pouvait s'échapper. J'aurais dit, mais d'abord, ils sont pas très bien élevés, forcément, les lycéens français. Ils vont me demander qu'est-ce qu'il y avait avant. Ils m'ont dit, c'est pas difficile. Avant, tu leur montres le transparent qui suit, qui est toujours la température. Vous noterez que la température, elle était de 100 000 milliards de degrés. À un millionième de seconde. Là, ils ont changé d'échelle, parce que ça monte encore plus, et ils remontent à 10-30 secondes, et ils m'ont dit, avant, tu n'as qu'à leur dire, c'est ça? Oui, mais je leur ai dit, ils sont tellement mal polis, ils vont me demander encore plus bas, là, à 10-42 secondes. Visiblement, là, vous voyez un spasme. Un spasme, enfin, c'est un changement de température considérable, parce qu'il y a un personnage extraordinaire dans notre physique qui est le vide. Avant, vous ne me demandez pas ce qu'il y avait, mais il y avait les lois de la physique. Et les lois de la physique permettent qu'il y ait une fluctuation énorme dans le vide, une création énorme d'énergie. L'univers, il était peut-être infini, mais ça fait rien, il était tout à coup rempli de cette densité infinie et s'est mis à se dilater. Et il y a eu ce qu'on appelle un changement de phase. Vous avez tous vu des petites bulles dans de l'eau qui bout. Imaginez, chaque bulle était un univers, des milliards d'univers se sont créés, et ils peuvent pas communiquer entre eux parce que la vitesse de la lumière étant ce qu'elle est, 300 000 km à la seconde, il n'y a pas moyen de communiquer avec les autres univers. Si vous trouvez ça obscur, dites-vous bien que c'est obscur pour les physiciens. Les seuls gens pour lesquels c'est pas obscur, c'est ceux qui sont les auteurs d'un modèle donné. Et en général, ils considèrent comme des débiles ceux qui sont les auteurs d'un autre modèle. C'est pour vous dire que c'est un domaine dans lequel l'imagination est en train de se développer. Et pour ceux d'entre vous qui sont doués en mathématiques et qui, pour des raisons existentielles, tous évidemment vous êtes doués, hésitez entre le métier de théologien et le métier de physicien-théoricien, je vous suggère de commencer par la physique théorique. Ça peut vous mener à la théologie par des chemins extrêmement brillants. En tout cas, il y a une chose qui est importante et que l'on pouvait voir sur le transparent précédent. Il y a eu l'époque actuelle, il y a eu l'époque où il y avait des photons, des leptons, et il y a l'époque des quarks. Et l'époque des quarks, c'est l'époque du CERN. Et ici, il y a quelque chose, environ un millième de milliardième de seconde après le Big Bang, vous avez une région qui est une région bénie pour les théoriciens, où toutes les particules qui avaient des masses nulles se sont habillées tout à coup et leurs masses sont devenues différentes. Si ça vous paraît obscur, vous en faites pas, ça va devenir clair tout à l'heure. Mais en tout cas, ici, c'est l'accélérateur que nous voulons faire en l'an 2000 qui va explorer cette région. Et c'est vous qui allez travailler dessus ou vous qui allez intellectuellement en cueillir les fruits. En tout cas, j'ai décidé, bien que ce soit le domaine dans lequel on peut faire fortune en faisant un best-seller, dans lequel, quand on est dans un salon parisien, on peut arriver à enlever la parole à une star du showbiz et il y a les yeux des femmes deviennent brillants quand on parle de cette époque, eh bien, je vais arrêter et je vais passer au présent. Et là, vous aviez, dans le passé, vous avez retenu 100 secondes après le Big Bang, les noyaux sont créés, puis 300 000 années après, il y a eu les atomes. Je vais passer au présent pour moi, où il y a quelques dates évidemment décisives, celle où je suis venu en France et où je ne suis pas rentré au lycée Saint-Louis, mais j'ai été à l'école communale de la rue d'Alésia, et je ne suis rentré au lycée Saint-Louis qu'en première. Et l'école communale, c'était très bien, le cours complémentaire, c'est là que j'ai fait mes armes. J'étais assez ignorant. Et une autre date décisive, c'est 1948, quand je suis sorti de l'école des mines, et à 24 ans, j'ai décidé de faire de la physique, et je ne savais rien, certainement beaucoup moins que vous. Et j'ai eu la chance de rentrer au CNRS et d'aller au labo Joliot. Le labo Joliot était un monsieur important qui était occupé à réformer le monde, à créer le commissariat à l'énergie atomique. Et pour toucher sa paye au Collège de France, il fallait qu'il fasse 20 cours. Et 20 cours, c'est très difficile. Alors, il racontait sa vie. Il racontait les découvertes entre 1930 et 1940. Et c'était très passionnant. Parce que entre 1930 et 1940, la physique nucléaire s'était faite, et il disait comment il avait raté la découverte du neutron. Comment, sur un cliché qu'il avait publié, un Anglais avait dit « Mais ce type, il est bouché, il voit le neutron comme le nez au milieu de la figure, il est incapable d'identifier. » Celui qui a dit ça, il a eu le prix Nobel, Chadwick. Il raconte comment Irène Joliot a raté la découverte de la fission. Et comment lui, il a réussi la découverte de la radioactivité artificielle. Tout ça se faisait avec des instruments qui n'étaient pas très compliqués. Et pour un jeune garçon un peu mégalo, il pouvait toujours se dire « Pourquoi pas moi ?» Il pouvait s'identifier en un mot au chercheur. Et pour moi, c'est une leçon importante. Je crois, ayant vu en 25 ans, 30 ans, beaucoup de découvertes faites, le nombre d'erreurs qui sont commises, le nombre de reculs en arrière, avant d'arriver à une théorie parfaite, c'est quelque chose de considérable, et quand on vous enseigne la physique, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible. Or, c'est une chose importante. La physique, c'est pas fait, même la physique théorique, c'est pas fait par des dieux qui ont tout à coup une inspiration et qui vous disent, c'est comme ça, ceci est la loi. La physique, c'est quelque chose qui se fait, qui s'élabore, c'est une activité humaine faite par des êtres de chair. En tout cas, en 48, en arrivant chez Joliot, le labo n'était pas équipé, on était très peu compétitif par rapport aux Américains qui avaient des bons instruments qu'ils pouvaient acheter dans le commerce, comme des photomultiplicateurs. Nous devions faire nos instruments. Je détestais ça, je déteste travailler avec les mains. mais il n'y avait rien à faire. Pour passer ma thèse, il fallait fabriquer un compteur proportionnel qui comportait un seul fil, hein, dans un tube. Et je l'ai construit et je voulais savoir comment il marchait. Je n'ai jamais aimé avoir un instrument dont je ne comprenne pas le fonctionnement. Ce qu'on fait actuellement, que je fais aussi, quand j'ai un appareil d'électronique qui ne marche pas, je donne un coup de pied dedans pour que la prise se mette en place. Sinon, je change un module que j'ai acheté pour enlever le module défectueux. Ça, c'est détestable. Il faut à un moment donné, dans la vie, comprendre l'essentiel des choses que l'on utilise. Donc, j'ai lu des livres atrocement ennuyeux pour comprendre comment marchait ce détecteur à un fil. Et au fond, je me rends compte que ça a été un capital très précieux. En même temps, pour avoir une stimulation, je suivais des cours à l'école de physique théorique des Ouches. J'étais à deux reprises, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des grands maîtres. Également, De Gène a mentionné à quel point ça a été important pour lui. Là, on avait l'oxygène, on avait des types qui étaient à l'avant-garde. Et je crois que, des gens comme Fermi, je crois que c'est très important d'avoir l'occasion, quand on est étudiant, de rencontrer des gens qui font des choses dans un domaine et qui sont les gens qui créent dans ce domaine. D'abord, ça humanise la chose et puis on gagne beaucoup de temps. Alors, j'avais donc la stimulation et j'avais la formation. Et au fond, ce détecteur que je faisais, je me suis mis à imaginer des extensions et j'ai imaginé un détecteur qui était tout à fait nouveau, qui était une sorte de chambre à étincelles, mais je n'ai pas inventé la chambre à étincelles. Elle a été inventée 5 ou 6 ans plus tard par des gens qui en ont fait un instrument. Mais comme j'avais une envie désespérée de sortir de la physique nucléaire et d'aller dans la physique des particules, je suis allé à un congrès à Venise où j'ai présenté mon instrument. C'était en 58. Et il y a un Américain qui s'est approché de moi à la fin. Il m'a dit « Hi George, c'est intéressant ce que tu fais, c'est amusant, mais ça sert à rien. Pourquoi est-ce que tu viendrais pas au CERN? Je suis en train de faire une équipe, il était en année sabbatique. Pourquoi tu viendrais pas au CERN? On a un problème merveilleux à résoudre qui est d'étudier le moment magnétique du muon. Alors, je dois vous dire tout de suite, bon, vous savez qu'un noyau s'est fait avec des neutrons et des protons et que ça colle ensemble, que ça a un diamètre d'environ 10-13 cm. Vous savez qu'un atome, c'est un noyau positif avec des électrons autour. Vous savez, vous devriez savoir qu'il existe 4 forces fondamentales. Et à cette époque-là, le nombre de particules que l'on connaissait en dehors du neutron, du proton et des électrons, on savait que le neutrino existe. Le neutrino, vous savez ce que c'est. Ça n'a pas de masse, ça n'a pas de charge, ça n'a pas de dimension, ça n'a pas de rayon. Ça peut traverser la Terre en ayant une chance sur 1 million d'avoir une interaction, mais néanmoins, ça tourne, ça a un spin et ça a une énergie. Le neutrino était quelque chose de prévu par les théoriciens, était indispensable. On avait découvert dans les rayons cosmiques le muon, le pion. Le pion, vous savez ce que c'est qu'un pion, mais vous avez une idée fausse de ce que c'est qu'un pion. C'est la particule qui permet aux neutrons et aux protons de tenir ensemble dans les noyaux. Ils échangent un pion qui a une masse de 200 fois la masse de... 300 fois la masse de l'électron. Vous pouvez imaginer ça comme 2 joueurs de rugby qui courent. Ils échangent un ballon. C'est pour ça qu'ils se tiennent côte à côte. Si le ballon est plus lourd, ils sont obligés de se tenir plus près. Imaginez un ballon de 20 kilos, ils sont obligés de se coller pratiquement l'un à l'autre. Eh bien, des électrons qui agissent entre eux échangent un photon qui a une masse nulle, mais les électrons, même à une très grande distance, ils interagissent. Par contre, les nucléons, le neutron et le proton, n'interagissent que quand ils sont à une distance de 10-13 cm et ils échangent un pion. Ça, on l'avait trouvé dans les rayons cosmiques. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé de rentrer dans la physique de haute énergie parce que je trouvais que c'était beaucoup plus excitant que la physique nucléaire. Et il y a eu un développement fulgurant de la physique de haute énergie dans les 3 dernières décennies grâce à 3 facteurs. Les sources de particules accélérées se sont améliorées. Il y a eu le développement de ces sources. Les détecteurs se sont améliorés. Et la théorie s'est améliorée. Les 3 ont marché ensemble. Et je voudrais vous expliquer comment je me suis inséré dans ce développement pour mon plaisir et pour le plaisir de mon banquier envers duquel j'avais des dettes considérables et qui m'a fait un mot extrêmement flatteur quand j'ai eu le prix Nobel. Bon. Alors, venons-en aux particules. La principale source de particules qu'il y avait à cette époque, la source la plus fructueuse, c'était les rayons cosmiques. Alors, il vient de l'univers des particules d'une énergie folle par rapport à celle des accélérateurs. En moyenne, vous avez par exemple la majorité sont 1 million de fois plus énergiques que celles des sources radioactives qui font quelques mèves. Et il y en a beaucoup. Dans votre main, il passe une fois par seconde une particule de rayon cosmique. Quand on est terrorisé par l'énergie nucléaire et par la contamination radioactive, il faut se poser la question, quelle est l'intensité par rapport à ce qui tombe naturellement sur vous? Si c'est 1% de ça, il est ridicule d'avoir peur. Si c'est 1 million de fois ça, il est naturel d'avoir peur. Quand est-ce que vous avez 1 million de fois ça? Quand vous êtes près de Tchernobyl ou bien quand vous allez chez votre médecin pour une radiologie. Évidemment, Tchernobyl, c'est embêtant parce que ça dure tout le temps. Chez votre radiologue, ça dure quelques secondes. Mais il faut avoir conscience que la principale contamination de rayonnement, c'est celle que vous avez chez votre radiologue. Revenons aux rayons cosmiques. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques particules qui ont même 1 million fois 1 million l'énergie des sources radioactives. Il n'y en a que 1 par kilomètre carré en 10 ans. Mais cette énergie est tellement plus grande que celle de tous les accélérateurs qu'un certain nombre de physiciens sont partis sur la pointe des pieds pour quitter la physique des accélérateurs parce que c'est lourd, c'est organisé, que c'est des anarchistes. Et ils se sont installés avec des détecteurs qui font 10 km carrés parce que c'est là qu'il y a les événements les plus intéressants, les interactions les plus intéressantes. Il y a une nouvelle classe de physique qui est en train de se développer. Bon, mais si vous regardez bien, vous voyez qu'il se produit un tas de particules. Vous avez ici le mu, dont je vous ai parlé, qui est la raison de mon embauche au CERN. Et le mu, il est produit par la désintégration du pion. C'est le pion qui est produit et qui se désintègre en donnant un mu. Le pion, il pèse exactement 280 fois la masse de l'électron et il émet un mu qui en pèse 210 fois. Et le mu, c'est quoi? C'est un électron lourd, simplement. Il a toutes les propriétés d'un électron. Et les gens se posaient la question, quand je suis rentré au CERN, à quoi ça sert? Pourquoi Dieu a-t-il voulu faire une particule qui ressemble à l'électron et qui n'est pas un électron qui pèse beaucoup plus lourd? Alors, l'expérience qui était montée par mes amis américains consistait à mesurer avec une très grande précision. Le muon, il a aussi, c'est aussi une toupie qui tourne sur elle-même, il a un spin. C'est un petit aimant, de mesurer la valeur de cet aimant. La valeur de cet aimant, on peut la calculer avec 10 décimales ou 12 décimales. Et pour l'électron, on avait vérifié en faisant les mesures que ça collait exactement avec la théorie. On se disait que pour le muon, si on trouvait quelque chose qui n'était pas comme l'électron, on dirait enfin voilà la raison de l'existence de cet électron lourd. Nous nous sommes lancés dans une expérience dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure parce qu'elle a joué un rôle décisif pour moi. Et nous avons trouvé que la masse de l'électron, c'était très exactement, que le muon, c'était très exactement un électron. Il n'y avait pas de trace d'une originalité quelconque. Alors, les rayons cosmiques, comment on les regarde? Il faut que je dise quelques mots des détecteurs. On envoyait à cette époque-là des émulsions photographiques épaisses. Et on voyait des choses admirables. Vous voyez, un magnésium, on pouvait voir que c'est un magnésium d'après les caractéristiques de la trace, et vous voyez, ça fait un splash sur un des noyaux de brome de l'émulsion, et c'était pas très difficile de voir qu'il en sortait des choses extraordinaires. Et évidemment, quand on a des photos aussi belles, c'était un jeu d'enfant pour les gens de faire des découvertes. Ils ont découvert ce qui était abondant. Dans l'émulsion photo, ils ont vu un objet qui était un pion qui s'arrêtait, qui donnait un muon, qui donnait un électron. Le type qui a trouvé ça, il a eu le prix Nobel. Parce qu'il a ouvert une voie. Ce muon qu'on avait découvert avant, il avait des propriétés qui ne collaient pas avec ce qu'on attendait d'un pion. Et là, tout à coup, les choses se sont éclairées. Voilà un autre exemple de ce qu'on pouvait voir dans les rayons cosmiques. Dans l'image que je vous montrais, il y avait l'image du pic du Midi, qui n'est pas loin, où il y avait un labo, le labo Le Prince Ringuet, où des gens avaient des chambres Wilson, je vous en dirai deux mots. Et regardez à quel point c'est beau, une gerbe d'un électron qui pénètre dans la chambre et qui se multiplie sur des plaques de plomb. Les détecteurs jouaient un rôle fondamental pour comprendre des événements rares. Quand le pion s'arrêtait, donnait un mu à un électron, une seule image, à cause de la redondance de l'information, suffisait pour dire « c'est comme une photo d'un individu ». Je le tiens, j'ai quelque chose de nouveau. Tandis que les détecteurs dont je vais parler un peu plus tard, des détecteurs électroniques, c'est tout à fait différent. Ils vous disent oui ou non, simplement. Or, on a besoin parfois d'informations un peu plus riches. Alors, je vous ai montré l'émulsion photographique. Un des premiers détecteurs qui a permis d'avoir une vision globale a été la chambre Wilson, la chambre à brouillard. La chambre Wilson, c'est simple, on se débrouille pour qu'il y ait de la vapeur dans un milieu, argon, alcool, et on crée des conditions telles qu'il doit se faire de la buée. Et Wilson a montré que quand une particule passe, eh bien, les gouttelettes d'eau se forment le long de la trajectoire de la particule, il suffit d'envoyer un flash de lumière et on a l'information. Je voudrais vous dire que Wilson, en 1895, il avait été sur le Ben Nevis, qui est la plus haute montagne d'Écosse, et il a vu un phénomène merveilleux. Il a vu une espèce de brouillard, et quand le soleil l'éclairait par derrière, il ne comprenait pas les phénomènes qu'il observait. Et il a consacré sa vie à essayer de comprendre ça. Il a reconstitué les conditions de production de brouillard dans son laboratoire, qui était, je crois, Cambridge. Et il a fini, après 15 ou 20 ans de travail, à montrer que si on prenait une source radioactive, la radioactivité venait pratiquement d'être inventée et venait d'être disponible dans le laboratoire, on voyait les trajectoires. En soi-même, on ne lui aurait pas donné le prix Nobel parce qu'il a étudié la formation de gouttelettes d'eau. Mais c'était un instrument fondamental pendant 10 ans. C'était l'instrument de base avec lequel on faisait les découvertes. Par exemple, voilà une source de rayons alpha qui ont un parcours donné dans le gaz. Et il y a un rayon alpha qui est un peu plus long. Vous voyez que c'est un jeu d'enfant. Lorsque le rayon alpha il cogne par hasard un noyau du gaz, il y a un recul, on voit le recul. On se dit, j'ai une réaction nucléaire. Rutherford est le premier à l'avoir observé. Et il a eu le prix Nobel pour ça. Et pour d'autres raisons, c'est un des plus grands physiciens de ce siècle. Là, vous voyez des particules alpha. Ça a été la principale source de rayonnement. Je dirais que c'était l'accélérateur du pauvre à cette époque-là. Irène Joliot et Frédéric Joliot, ils avaient la plus grande source de rayons alpha, la plus intense du monde, grâce au travail de Pierre et Marie Curie. Et ils ont, grâce à ces projectiles qui font quelques millions d'électronvolts, produit la radioactivité artificielle. Ce qui est extraordinaire, j'ai oublié de vous dire quand même que si Wilson était né en Provence, il n'aurait pas eu le prix Nobel, parce que le brouillard ne l'aurait pas intéressé, et la physique aurait reculé probablement d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Pour dire qu'il y a quand même un côté accidentel dans les prix Nobel donnés aux gens qui font des détecteurs, et j'en fais partie. On doit quelque chose un peu à la destinée. Alors, revenons à mon accélérateur. Ils ont découvert la radioactivité artificielle, c'est-à-dire qu'ils ont montré que quand on bombarde avec des alphas, je crois que c'est de l'aluminium, et qu'on enlève les alphas, il reste une radioactivité. Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis très longtemps, 1 ou 2 ans, les gens qui avaient inventé le cyclotron qui accélère des particules, mais avec une intensité beaucoup plus grande, il peut accélérer également des noyaux d'hélium. Ils produisaient de la radioactivité. Quand ils éteignaient leur accélérateur, ils voyaient tous leurs instruments qui continuaient à marcher. Mais ils n'auraient même pas venu à l'idée que c'était la radioactivité artificielle. Ils se sont mis à chercher comment les instruments pouvaient avoir une mémoire, une hystérésis. Et ils ont été stupéfaits quand ils ont vu le papier d'Irène et Frédéric Joliot. Bon, ben, c'est eux qui ont trouvé ça, c'est eux qui ont le prix Nobel. Il y a une part, mais cela dit, ils l'ont mérité largement parce qu'encore une fois, ils avaient déterré un tas de phénomènes intéressants. Alors, les accélérateurs, On n'en est pas resté là. Le premier accélérateur était grand comme une boîte de camembert. C'était deux demi-boîtes de camembert dans lesquelles les particules étaient accélérées en passant d'une demi-boîte à l'autre. Je ne veux pas vous décrire le principe des accélérateurs que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Vous le connaissez tous, j'en suis sûr. De même qu'une des raisons pour laquelle je ne me suis pas attardé sur le Big Bang, c'est qu'il y a tout de même un certain nombre de livres qui sont parus. La brève histoire du temps de Hawking, 5 millions d'exemplaires. Il y a sûrement parmi ces 5 millions des lecteurs qui sont ici dans cette salle, les trois premières minutes de Weinberg. Certains d'entre vous l'ont lu. Encore que quand il est paru, c'était un best-seller en Amérique aussi. Il y a un de mes amis qui a dit, les trois premières minutes, il s'est si bien vendu parce que les gens pensaient que c'était un livre sur le sexe. Mais Weinberg, qui est un très grand physicien théoricien, a fait là un excellent livre. Et je suis sûr que vous avez... Et puis il y a Hubert Reeves qui a fait d'excellents livres aussi. Donc, je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus parce que vous savez plus de choses que moi là-dessus. Alors, les accélérateurs ont subi une évolution considérable. Et, bon, celui-là, il fait 10 km de diamètre. C'est le dernier petit que nous avons au CERN. Quand je suis arrivé au CERN, le PS commençait à se construire. Il faisait 200 mètres de diamètre. Et moi, je travaillais sur un tout petit qui faisait la physique du muon, sur un tout petit qui était là, qui faisait, lui, il faisait peut-être 5 mètres de diamètre. En tout cas, là, on produit des particules. On cogne, on stocke des électrons dans un sens qui font environ 50 GeV, et dans l'autre sens, 50 GeV, et ils ont une collision frontale. Et là, il y a eu le SPS, dans lequel des antiprotons et des protons font des collisions frontales, grâce auxquelles on a découvert les bosons intermédiaires. Et puis, il y a eu une série d'accélérateurs avec lesquels on a fait des découvertes importantes. Alors, quand j'ai mesuré avec mes collègues américains, j'étais leur élève, il y en a qui étaient plus jeunes que moi, mais ça faisait 10 ans qu'ils avaient un accélérateur, quand on a mesuré le moment magnétique du muon, c'est-à-dire la valeur de l'aimantation de ce petit machin, on a trouvé à un millionième près que c'était pareil que celui d'un électron. Alors, mes copains, vexés, on se dit, on va faire quelque chose qui est 1000 fois plus précis, 10 000 fois précis, et moi, je leur ai dit non. Moi, je fais autre chose, et ils avaient raison de continuer, ils sont arrivés à avoir 10 000 fois mieux, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Que c'était toujours pareil qu'un électron. Le muon, il pèse 200 fois la masse de l'électron, et c'est exactement pareil. Et finalement, on en a trouvé un troisième un peu plus tard, qui lui pèse 3500 fois la masse de l'électron, et c'est exactement pareil. Et c'est un des mystères de la nature avec lesquels nous devions vivre, et qui est quand même intéressant. Alors, quand je les ai quittés, quand on se promenait au CERN, sur les aires expérimentales, on entendait toutes les 10 secondes le bruit d'un canon. Boum ! C'était les chambres à bulles. Les chambres à bulles, c'était un liquide dans lequel on provoquait une détente brusque et on se mettait dans des conditions telles qu'à la température qu'il y avait, il devait se mettre à bouillir. Et chose extraordinaire, il se mettait à bouillir là où les particules avaient déposé de l'énergie. Ça avait été inventé par Don Glaser, qui était un physicien de hautes énergies qui avait dans les 29 ans. Et en regardant son verre de bière, il rêvait que les bulles naissaient là où les particules déposaient de l'énergie. Il a acheté de la bière, non pas aux frais du laboratoire, parce que je pense qu'il aurait été très mal vu, mais à ses frais. Il s'est mis à les déboucher furieusement, les bouteilles de bière, à les irradier pour voir si par hasard ça bouillait pas un peu plus vite. Il a rien vu du tout. Mais c'était un très grand physicien, bien que ce fût un physicien des particules. Hein ? C'est-à-dire que sa culture allait beaucoup plus loin. Il a plongé dans les livres où on parle de l'ébullition. Oui, il faut sortir des fois de son trou. Et il s'est mis à étudier l'ébullition et à chercher quelles devraient être les propriétés d'un liquide qui se mettrait à bouillir là où une particule dépose de l'énergie. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il a trouvé que l'éther, ça devait marcher. Et il s'est mis à étudier des livres de chimie. Et il a trouvé que l'éther, 25 ans avant, des Canadiens avaient trouvé, ça avait des propriétés bizarres. Ça boue à 27 degrés, mais de temps en temps, il l'amenait à 130 degrés sans que ça boue, et ça restait des fois 3 minutes, non, même plusieurs heures, avant de se mettre à bouillir. Pour le chimiste qui avait trouvé ça, c'était incompréhensible. Et il disait, tout à coup, ça se met à bouillir. C'était un bon chimiste, il avait mesuré le temps moyen et la statistique. C'était exactement la statistique correspondant au nombre de rayons cosmiques qui traversaient la capsule du chimiste. Alors, notre ami Glaser a fait un détecteur qui faisait 3 cm cubes. Je ne sais pas si on voit quelque chose. On voit une trace à droite et un rayon cosmique. Ça lui a valu le prix Nobel. Sans bière, peut-être qu'il n'aurait pas eu le prix Nobel. Mais c'était une découverte prodigieuse. Très rapidement, les gens ont trouvé qu'on pouvait faire des tanks avec, par exemple, de l'hydrogène liquide. Des tanks de plusieurs mètres cubes, qu'on pouvait détendre ces tanks, et regardez la qualité absolument exquise de cette image, où vous voyez une particule qu'on appelle un K, qui pèse 500 fois la masse d'un... 500 même, il pèse environ 1000 fois la masse d'un électron. Il donne une réaction sur un des protons, hein, sur le noyau de l'hydrogène, et regardez la qualité, la nature complexe de la réaction, et regardez la qualité de cette image. Ces chambres à bulles ont été un élément essentiel du progrès dans notre physique. La qualité était tellement bonne que, exactement comme dans l'émulsion photographique que je vous ai montré, un événement, ça suffisait pour qu'on dise « j'ai découvert quelque chose de nouveau ». On a découvert des centaines de particules comme ça. On a épuisé l'alphabet grec. Là, vous avez K, mais vous avez les pi, les alpha, beta, gamma, delta, oméga. Enfin, il y avait une quantité extraordinaire de particules. On se serait cru en botanique, hein, et plus en physique. Les gens décrivaient ça, mais ça a joué un rôle considérable dans le progrès. Et les laboratoires ont été pleins de centaines de jeunes femmes troublantes qui regardaient des images de chambres à bulles. Et que faisaient ces jeunes femmes? Eh bien, on leur avait dit, si tu trouves telle classe de phénomène, tu appuies sur un bouton, comme ça le numéro, il s'inscrit, et ensuite le noble physicien revient et il étudie ces images. Il y a des physiciens qui ont inventé un détecteur qu'on appelait la chambre à bulles, la chambre à étincelles, et là, vous voyez un individu qui est en train de monter des chambres à étincelles, et si vous regardez bien ici, vous avez des traces rouges, c'était en fait des détecteurs remplis de néon, qui ont permis de faire un pas en avant considérable, et dont le principe, je vous promets que je ne vais pas vous inonder de physique, dont le principe était simple, une particule passe dans un gaz, vous savez que dans le gaz, elle libère des électrons, on applique un petit champ électrique pour que les électrons quittent les ions, un tout petit champ électrique, et les électrons mettent environ un millionième de seconde avant de s'en aller, avant d'être collectés, et ça vous donne le temps de penser un millionième de seconde. En un millionième de seconde, vous avez des tas de détecteurs ultra rapides qui, en 10 milliardièmes de seconde ou 100 milliardièmes de seconde, vous disent « il s'est passé quelque chose d'intéressant ». À ce moment-là, vous appliquez une haute tension sur les deux électrodes et il se produit une étincelle. Par rapport à la chambre à bulles, le progrès était colossal parce qu'il y avait une mémoire. Vous ne sélectionnez les événements que s'ils sont bons grâce à des détecteurs auxiliaires. Vous pouvez avoir 100 000 particules par seconde, mais elles ne sont pas lues, elles sont balayées en une microseconde. L'événement est bon, vous appliquez la tension, vous l'avez. Vous l'avez et vous prenez une photographie. Et vous pouvez répéter ça 100 fois par seconde. Et à la fin de l'année, vous avez de nouveau 10 millions de photos, les jeunes filles troublantes et tout ça. Et vous êtes ramené au problème précédent, vous êtes asphyxié par les photos et les jeunes filles troublantes. Alors, on est arrivé à ce que les particules, il y en avait tellement, on a fait une espèce de classification de Mendeleïev. Les particules s'ajustaient en régularité et qui permettaient, exactement comme la classification de Mendeleïev a permis de trouver quelle était la structure d'un atome, de savoir qu'il y avait des couches, il y avait 8 électrons, d'autres où il y en avait 2 ou des choses comme ça. Là, on est arrivé à découvrir des symétries qui ont joué un rôle essentiel pour la suite de notre discipline. Grâce aux chambres à étincelles, on a découvert un deuxième neutrino, qui, comme le premier n'avait pas de charge, il n'avait pas de charge, il n'avait pas de masse, il n'avait pas de masse, il tournait exactement pareil, et il différait en quoi? Il différait par une caractéristique raciale. Hein? Il était produit associé à un muon, l'autre était produit associé à un électron, Et il s'en rappelait. Si vous prenez un neutrino qui est du premier type, vous pouvez produire un électron si vous êtes patient et si vous avez un flux intense. Si vous avez le neutrino du deuxième type, il était capable de produire un muon. Mais c'était extraordinaire de voir qu'on avait deux électrons, un léger et un lourd, et qu'on avait également deux neutrinos. Ça, c'était grâce aux chambres à étincelles. Alors, c'était le moment où j'avais quitté la mesure sur le moment magnétique du muon, et j'ai eu envie de faire une contribution. Mais avant de vous dire que j'ai quitté le moment magnétique du muon, je voudrais vous montrer une image admirable obtenue dans une chambre Wilson, où vous avez un électron qui rentre. En fait, il y a des rayons gamma qui produisent une paire, un électron positif, un électron négatif. Et logiquement, si vous connaissez bien votre cours de physique, vous devriez savoir que un électron, bon, dans le champ magnétique, il décrit un cercle. Si le champ magnétique est constant et fixe, le cercle se referme sur lui-même. Mais le champ magnétique étant légèrement plus grand, le cercle se déplace. Et vous avez là une trentaine de cercles faits par l'électron. Pourquoi je vous cite ça? Parce que la base de l'expérience que nous avons menée au CERN consistait à injecter un muon, à lui faire faire des centaines de tours, et ce muon, il tourne, il est ce qu'on appelle polarisé longitudinalement, c'est-à-dire c'est une espèce d'aimant, mais avec l'aimant qui est toujours dans une même direction, longitudinale. Et pourquoi c'est extraordinaire? C'est que la théorie indiquait que l'électron, après avoir fait un tour, eh bien, le petit aimant, il restait longitudinal. Sauf une légère variation due à l'interaction du muon ou de l'électron avec le vide. Le vide, c'est un personnage extraordinaire parce que dans les brefs instants de temps, très petits, l'énergie n'est pas conservée, c'est la relation de Heisenberg, delta E, delta T est une constante, si delta T est très petit, delta E peut être n'importe quoi, et il peut se créer des particules pendant ce temps bref. Il peut se créer des particules que si les lois de la physique le permettent. En un mot, si vous avez une théorie qui vous dit que dans le vide, il peut se produire des paires de particules que vous connaissez, à ce moment-là, vous pouvez calculer la valeur, la perturbation apportée au moment magnétique. Parce que le moment magnétique, il change. Et il change de combien? D'environ un millième. Et à chaque tour, il y a un petit décalage d'un millième. C'est pour ça qu'on voulait faire des centaines de tours, et ça nous a permis de faire la mesure très précise. La raison pour laquelle je vous cite ça, c'est la suivante. C'est que les particules que nous envoyons là-dedans, c'est des muons. La vie moyenne, 2 microsecondes. Nous les gardions 50 ou 100 microsecondes en stock. Comment peut-on garder 100 microsecondes en stock, quelque chose qui fait 2 microsecondes? À cause de la relativité. Vous avez tous appris le paradoxe des jumeaux d'Einstein, je vais vous en donner une variante. Supposez deux candidats à la présidence de la République. Il y en a un qui est ça n'a aucun rapport avec une situation existante. Il y en a un qui est polytechnicien, qui connaît la relativité restreinte. L'autre ne connaît pas la relativité restreinte, mais il a quand même entendu parler du paradoxe des deux jumeaux. Il lui dit, au lieu de faire des primaires, on va jouer ça à pile ou face. Mais celui qui perd, eh bien, il va avoir une récompense. Celui qui gagne va s'engager à l'envoyer sur une fusée avec une vitesse suffisante pour que quand il revienne, il ait vécu 7 jours, pendant que celui qui est resté et qui a gagné vive 7 ans. Comme vous savez, les lois de la relativité le permettent, et c'est une certitude. Je suggère d'ailleurs aux professeurs de donner comme problème à leurs élèves de calculer l'énergie nécessaire qu'il faut dépenser pour qu'on puisse envoyer 150 kilos à un couple, parce qu'une semaine c'est long quand même, envoyer un couple faire un périple de ce genre. Au bout d'une semaine, dans son temps propre, le candidat malheureux à la présidence, celui qui a perdu, revient et voit l'autre qui est en train de rédiger ses mémoires après avoir passé 7 ans et il explique comment il a tenu ses promesses électorales, et il tombe à genoux en s'écriant « Merci Dieu, merci Einstein de m'avoir fait perdre ». Alors, c'est une variante du paradoxe des deux jumeaux, mais ce qui était amusant, c'est qu'avec les muons, nous avions exactement cela. Une particule qui vivait 2 microsecondes dans son système, nous pouvions la garder très longtemps parce qu'elle allait à une vitesse qui était une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière. J'aimerais avoir le résultat du problème, qui est un problème qui n'est pas très difficile. En tout cas, je me suis trouvé, après avoir travaillé là-dessus, je vais aller plus vite. Après avoir travaillé là-dessus, devant le fait que les labos étaient saturés par les photographies, il fallait sortir de là. Sortir de là, j'ai inventé une méthode pour lire les chambres à étincelles sans photo. J'avais appris la loi d'Ohm à l'école des mines, et je m'étais dit, si on prenait des fils, une électrode faite avec des fils, la quantité d'électricité qui sort d'un côté ou de l'autre n'est pas la même suivant l'endroit. Grâce à ça, j'ai la position sur les fils. Au commissariat à l'énergie atomique et dans quelques autres labos, il y a des gens qui ont adopté ce système. On avait fini avec les photos, on pouvait prendre des milliards d'événements. Des collègues avaient trouvé un système de chambre à fils beaucoup plus astucieux que le mien. C'était des électrodes faites avec des fils, toujours une chambre à étincelles, mais on lisait les fils avec des mémoires, des ferrites, des mémoires qu'on utilisait à ce moment-là dans les calculatrices. Ils m'ont écrasé, mais on faisait tous, les uns et les autres quand même, que 100 événements par seconde. 100 événements par seconde, or les accélérateurs nous permettaient d'en avoir beaucoup plus. Un accélérateur, ça donne 10 puissance 13 particules par seconde qu'on peut envoyer sur une cible. Par conséquent, les détecteurs étaient tout à fait en dessous de ce que permettaient les accélérateurs. À ce moment-là, comme par exemple, probablement un certain nombre d'entre eux, je me suis dit, mais on peut peut-être faire des chambres dans lesquelles il n'y a pas d'étincelles. Alors là, je ne vais pas vous affliger beaucoup de physique, mais je suis quand même obligé, si vous m'accordez 3 minutes, de vous dire ce que j'ai fait. J'ai imaginé des fils tendus tous les millimètres environ, entre 2 électrodes, les fils sont positifs, les électrodes sont négatives, et si on applique un champ, les fils sont positifs, et qu'on regarde, les fils ont 20 microns de diamètre, et qu'on regarde les lignes de force autour des fils, on trouve que ce sont des cercles. C'est exactement comme si le fil était à l'intérieur d'un tube cylindrique. C'est pas d'une très grande originalité, mais en plus, si on regarde le champ électrique et que on choisit le bon gaz à la pression atmosphérique et qu'on veuille avoir un gain, par exemple, de 1 million, on trouve que le libre parcours moyen est de 1 micron et que tout se passe près du fil. C'est-à-dire que vraiment, le mécanisme de multiplication, il ignore complètement qu'on a des fils qui sont dans une nappe et non pas dans un cylindre. Mais il faut bien regarder la chose suivante, et là, c'est également quelque chose qui peut donner lieu à un exercice pour vous. Lorsque les électrons se multiplient, le libre parcours moyen est d'environ 1 micron pour qu'un électron donne 2 électrons, 1, 2, 4, etc. Vous connaissez la suite. Si on veut arriver à 100 000, on a besoin que d'une distance qui est égale à peu près au diamètre des fils. Et la capture des électrons sur le fil donne une impulsion qui n'est pas détectable. Elle n'est pas détectable pour la raison simple. Réfléchissez-y, c'est que la charge que vous collectez, elle est collectée, les électrons doivent parcourir une différence de potentiel qui est très petite. Le champ électrique est en 1 sur R avec un fil. Et si vous imaginez que vous appliquez par exemple 3000 volts dans un compteur qui fait 1 cm, vous avez trouvé que dans le dernier libre parcours moyen, il n'y a qu'une dizaine ou une vingtaine de volts. Et pour des raisons qui ont trait à la conservation de l'énergie, vous trouverez que la variation de charge sur le condensateur constitué par le fil, elle est toute petite quand vous collectez l'électron, et en plus, l'électron, il est collecté en 0,2 milliardième de seconde. C'est-à-dire que les amplificateurs ne sont pas capables de le détecter, ils n'étaient pas capables à cette époque. L'impulsion que vous allez avoir, elle est due au mouvement des ions positifs qui s'éloignent du fil. J'en ai pour 1 minute, rassurez-vous. Et qu'est-ce que ça a d'extraordinaire que les impulsions soient dues au fait que les ions positifs s'éloignent du fil. Eh bien, la chose suivante. Quand les ions positifs s'éloignent du fil, ils produisent des impulsions positives. Mais en même temps, tout à coup, leur ligne de champ commence à rayonner sur toutes les électrodes voisines. Et des impulsions positives arrivent sur les électrodes voisines. C'est un jeu d'enfant pour un physicien de faire la différence entre les impulsions négatives ou positives. Il a des amplis qui sont sensibles ou à l'un ou à l'autre, c'est très facile à faire. Donc, on peut détecter l'électrode sur laquelle a lieu l'avalanche. Mais en plus, les autres électrodes, si vous faites ça astucieusement, vous avez ici une électrode avec des fils perpendiculaires, vous pouvez savoir où se trouve l'avalanche le long du fil. Eh bien, cette simple remarque m'a permis de prendre une avance considérable sur mes collègues. J'avais fait ma thèse avec un fil dans un cylindre. Je savais que les impulsions, elles étaient dues au mouvement des ions positifs, que bien qu'elles aient un temps de montée phénoménal de 20 nanosecondes, ce n'était pas la collection des électrons. J'ai vu les impulsions positives et j'ai compris complètement qu'on pouvait tirer un profit considérable de cela. Et en plus, j'ai observé que si les fils sont loin l'un de l'autre, si on se débrouille de façon à faire une structure telle que les équipotentiels sont comme je vous les montre, eh bien, les électrons qui sont produits là vont voyager et ils vont mettre un temps considérable pour venir là. Et si vous avez quelque chose qui vous donne le temps zéro, vous pouvez sans difficulté mesurer la position. Et effectivement, j'ai mesuré une centaine de microns pour la précision. Alors, j'ai fait une publication qui s'est arrachée et qui est la raison pour laquelle je suis là au fond. Je ne l'ai plus, c'est pas grave. Je voulais vous montrer le résumé. Le résumé, l'abstract, le résumé disait on peut détecter 100 000 impulsions par seconde sur un fil. Avant, on pouvait détecter 100 impulsions par seconde sur la totalité d'un plan. Là, j'avais 100 000 par fil. La résolution était de quelques dizaines de nanosecondes et on pouvait avoir les deux coordonnées. Une fois que j'ai publié ça, Une fois que j'ai publié ça, ça s'est répandu comme un feu de poudre et je comparais ça volontiers à la situation des tripes d'un animal qu'on égorgeait dans l'Antiquité dans un hôtel, sur un autel, où un bon professionnel, en regardant les tripes, il pouvait voir l'avenir. Les physiciens, en regardant mon détecteur de 10 cm sur 10 cm, ils voyaient l'avenir, ils voyaient la réponse au problème qui se posait. Maintenant, vous preniez 10 prêtres, ils prévoyaient 10 avenirs différents. Là, les physiciens, ils prévoyaient tous des structures différentes. Et il y a eu dans le monde entier une espèce d'épidémie de construction de chambres. Par exemple, voilà ce que l'on pouvait voir. Et au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay, où j'étais il y a quelques jours, ils ont calculé qu'ils ont soudé 300 000 fils depuis mon article. Alors, ces fils, ils servaient à savoir quand une particule passait à côté, ça donnait une impulsion qui rentrait dans un computer et on pouvait faire la reconstitution des événements. Et voilà, par exemple, un événement type au CERN actuellement, avec des chambres à fil. Vous combinez la mesure du temps, très souvent, avec la mesure du fil qui est près de l'avalanche. Et ces détecteurs, regardez trois gerbes qui sortent d'une collision électron-anti-électron. Et vous voyez, l'information est tellement riche que là aussi, vous pouvez, exactement comme dans les premiers détecteurs visuels, vous pouvez, à partir d'un événement, en principe, tirer une conclusion. Et ces détecteurs sont bardés d'autres détecteurs dans lesquels il y a beaucoup d'inventivité qui permettent, par exemple, de savoir quelle est l'énergie de la particule qui sort. On a sa quantité de mouvement plus l'énergie, on peut trouver la masse. Alors, quand ceci s'est développé, il y a eu quelques expérience très belle faite avec, qui ont valu à leurs auteurs le prix Nobel. Mais moi, je suis parti sur la pointe des pieds et je me suis lancé dans des études de détecteurs pour des applications différentes. Pourquoi ? Parce que je trouvais que le sujet n'était pas épuisé Et les grands détecteurs, actuellement, il y a des détecteurs dans lesquels il y a 200 physiciens, ils coûtent 100 millions de francs suisses. C'était une profession et j'avais été mal préparé à cette profession. Alors, je suis donc sorti sur la pointe des pieds et j'ai continué à développer des détecteurs. Et puisqu'il me reste 10 minutes, 15 minutes, je ne vous prendrai pas plus, je voudrais vous dire que ces détecteurs ont subi une évolution. On était capable de détecter non seulement des particules, mais des rayons ultraviolets et les localiser. Et je me suis lancé dans les applications à la biologie ou à la médecine. Pourquoi ? Parce que très rapidement, on peut avoir une réponse. Et je voyais qu'il y avait des problèmes extraordinaires que l'on pouvait résoudre en transférant la technologie que nous avions développée en physique de haute énergie dans d'autres domaines. Je vais vous en donner un exemple. Lorsque l'on veut étudier la structure d'une protéine, qui fait par exemple une centaine d'angström et qui a 10 000 atomes, on ne peut pas envoyer un faisceau de rayons X étroit dessus en se disant « je vais prendre une lentille et je vais avoir l'image ». D'abord, la lentille n'existe pas pour le rayon X. Puis en plus, vous découvrez quand vous faites le calcul que le faisceau de rayon X, il va détruire votre molécule. L'intensité qu'il vous faut pour avoir l'information va faire exploser votre molécule parce que les rayons X arrachent des électrons. Alors, ce que les biologistes font, eh bien, ils se débrouillent pour faire un cristal avec leurs molécules. Il y a un art de faire des cristaux avec des molécules géantes. Ils mettent des fois un an ou deux pour le faire. C'est un élément essentiel de leur activité. Et l'étude de la structure des molécules, c'est quelque chose de fondamental en biologie. On connaît 300 à 400 molécules dont on a trouvé la structure. Et une grande partie de ce que nous savons en biologie est basée sur cette connaissance de la structure, en particulier les histoires d'hélice, de DNA, de choses comme ça. Ça a été trouvé avec les rayons X. Alors ce qu'on fait, on fait un cristal, et quand on fait un cristal, voilà un cristal qui a été fait avec des virus, par exemple. Voilà, dans une position donnée, l'image extraordinaire que vous avez avec un film. Tous ces petits points que vous avez là, eh bien, il faut mesurer leur intensité, leur position, et ça, c'est sur un degré. Si vous voulez le faire sur 360 degrés, vous retrouvez avec environ 1 million de petits points. Et le film, c'est quelque chose de détestable. C'est pas efficace, c'est pas linéaire, ça n'a pas de gamme dynamique, mais il faut bien vivre avec parce qu'il n'y a rien d'autre. Alors, il y a une dizaine d'années, même un peu plus, 15 ans, confronté à ça, j'ai essayé d'appliquer les chambres à fils à cela. La difficulté, c'est que le gaz est complètement transparent aux rayons X. Pas complètement, mais si vous voulez, si vous prenez un centimètre de gaz, il va absorber que 1% des rayons X. Et qui plus est, les rayons X vont arracher des électrons le long d'une trajectoire qui est une droite, c'est-à-dire que la réponse n'est pas un point, mais une droite. J'ai donc essayé de résoudre le problème en faisant une chambre sphérique. J'avais une fenêtre de beryllium, j'avais 15 cm d'épaisseur, et grâce à cela, en mettant le cristal au centre, tous les électrons libérés le long d'une trajectoire voyagent le long d'un rayon et me donnent un point. Une direction correspond à un point. Et j'ai eu un très grand plaisir dans une revue prestigieuse américaine de voir la structure de molécules très compliquées obtenues avec l'appareil que j'avais fait. Ceci mériterait un séminaire d'une heure dans lequel je pourrais vous expliquer la beauté de cette méthode. Ce qui est important, c'est de se rendre compte, c'est que quand vous avez un cristal dans lequel vous avez 10 puissance 15 molécules, les 10 puissance 15 molécules se partagent la charge de diffuser les électrons. Elles ne sont détruites que beaucoup plus lentement. Et pourquoi un cristal ? Parce que dans un cristal, ça vous l'avez appris, il y a diffraction des rayons X qui sont mono-énergétiques et il y a certaines directions privilégiées dans lesquelles vous avez les faisceaux qui sont émis. Et l'intensité dans ces faisceaux vous donne une information sur la densité électronique dans le cristal et vous permet de reconstituer la structure atomique des molécules les plus compliquées. À Grenoble, vous avez la chance d'avoir... Ça a été fait à Orsay avec la radiation de synchrotron. À Grenoble, vous avez la chance d'avoir l'appareil le plus performant du monde qui va bientôt être construit. Et je suis en train de faire du lobbying pour essayer de faire un détecteur pour eux. C'est pas facile parce qu'il y a des méthodes en concurrence. Rien n'est jamais donné dans ce monde. Une fois qu'il est devenu clair que les chambres à fils pouvaient être utilisées pour le rayon X, j'ai vu apparaître d'autres publications. Voilà par exemple une femme russe dans laquelle on a injecté un produit de contraste et avec laquelle à Moscou, en routine, on fait des radiologies. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que chaque photon est détecté individuellement et l'intensité nécessaire pour avoir cette photo, elle est 20 fois plus petite que celle qui serait nécessaire avec l'appareil le plus performant à l'ouest. C'était intéressant de voir à Novosibirsk et à Moscou cet appareil qui était utilisé. Et j'ai vu apparaître d'autres publications à Roissy. Il y a ici un appareil qui permet de faire la radiographie dans des boîtes qui font 6 mètres, dans des conteneurs qui font 6 mètres. Si vous avez sûrement un œil plus exercé que le mien, vu les films que vous voyez, et vous devez reconnaître ici deux grenades et un Smith & Wesson. Et il y a 3 mois, ils ont trouvé comme ça 150 kilos de cocaïne. Et je vais passer rapidement sur un certain nombre de lettres que j'ai reçues depuis le prix, des gens qui, en médecine nucléaire, ont trouvé des très belles applications qui permettent de baisser la dose. Je vous les mentionne non pas pour prendre le crédit de ces développements, mais pour des raisons dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais maintenant, je veux arriver à un sujet qui me tient à cœur, qui est le suivant. Les détecteurs que je vous ai montrés, les images que je vous ai montrées qui sont obtenues avec les chambres à fil, elles sont légèrement mensongères. Pourquoi ? Dans une chambre à bulles ou dans une chambre Wilson, vous avez tout à coup une condensation le long des gouttelettes d'eau, ou alors, au contraire, vous avez les petites bulles le long de la trajectoire. Là, vous mesurez l'énergie déposée dans un détecteur point par point, et c'est la calculatrice qui vous fait la synthèse. Et la calculatrice, quand elle tombe sur des choses trop compliquées, elle les rejette. Elle dit, je ne sais pas ce que c'est. Et ça ne vous dérange pas trop, parce que, encore une fois, le détecteur, il est utilisé souvent de façon auxiliaire, au centre, pour avoir les trajectoires. Vous avez d'autres détecteurs auxiliaires qui vous disent c'est un bon événement, et vous vous intéressez à une fraction du détecteur. En fait, si je vous donnais l'image brute, vous verrez que une quantité énorme de points ne sont pas analysés. Or, il existe des problèmes en physique dans lesquels il est fondamental d'avoir une réponse qui soit sans ambiguïté, dans lequel un événement vous donne une découverte. Or, il y a 5-6 ans, a commencé à circuler dans nos laboratoires le bruit que 90% de la masse de l'univers était cachée. Ce que nous voyons dans le ciel, les nébuleuses, les étoiles, c'est de la matière ordinaire, mais 90% c'est caché, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Et comment nous savons que ça existe? À cause du fait que ça exerce quand même une attraction gravitationnelle. C'est ainsi que dans les nébuleuses, la vitesse des étoiles qui sont à l'extérieur des nébuleuses implique automatiquement qu'il y a une énorme masse qui est là dont nous ne savons pas ce que c'est. Et les bruits, les bobards, ont commencé à circuler sur ce que c'était. C'était le troisième neutrino lié au troisième électron dont je vous ai parlé qui pesait légèrement. Il pesait 50 fois moins que l'électron, c'était lui qui était responsable de ça. Il y a eu une cinquantaine de candidats. Il était impossible pour un physicien un peu contaminé comme moi qui vivait au CERN de ne pas se dire c'est quoi, comment on va le détecter. Et parmi les candidats, il y avait certains candidats qui devaient cogner sur un atome de gaz et le faire reculer et on devait trouver des petits points lumineux dans un détecteur gazeux. Mais pour ça, il fallait qu'il n'y ait aucun bruit. Alors pour qu'il n'y ait aucun bruit, il n'y a qu'une seule solution, c'est la photo. Et je voulais vous montrer quelque chose que je montre à mes étudiants d'un niveau supérieur, mais ça sera clair pour vous. Si vous avez une image comme cela, vous vous demandez bien ce que c'est et la calculatrice va le rejeter. C'est un événement extraordinaire, mais si vous n'avez pas quelque chose auquel vous pouvez le comparer, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Or, ça peut être un événement extrêmement intéressant et inattendu. Voyez, on peut ajuster ça très bien. Donc, le problème était d'avoir la redondance qui vous permet, sur un événement inattendu comme ça, de dire « ça existe ». Alors, je me suis lancé dans un détecteur d'un type différent, dans lequel j'avais, entre deux électrodes que je soumettais à un certain potentiel, une particule passait, les électrons libérés dérivaient vers un petit espace entre quelques millimètres entre deux autres électrodes, des grilles. Quand il y en a une grille, les électrons y traversent. Hein. Une certaine proportion, 90% suivant les champs que l'on a mis ou des choses comme ça. J'appliquais une tension là et là j'avais une avalanche lumineuse. J'ai mis 2 ans à trouver la bonne avalanche avec le bon gaz et la bonne vapeur qui émettait assez de lumière. Si je mettais les gaz que je connaissais, il sortait rien. Et là, à 30 cm, je mettais une lentille et un intensificateur de brillance. C'est prodigieux, un intensificateur de brillance. Ça vous permet de voir, par une nuit sans lune, un soldat qui rampe sur le sol. Vous voyez ? Et ça a été développé, Grenoble en a, je suis sûr qu'il s'en est développé beaucoup ici à Grenoble. Mais grâce à cela, c'est quelque chose qu'on trouve pour pas trop cher. Et j'ai donc mis un amplificateur de brillance et j'ai fini par avoir les résultats suivants. Ça, c'est le bruit de fond près d'un accélérateur, c'est une seule image, sans aucun traitement, et il y a beaucoup plus d'informations que vous n'imaginez, parce que un film vous restitue très mal le fait que ici vous avez quelque chose qui est mesuré, parce que cet amplificateur de brillance, il reçoit l'information à la fin sur ce qu'on appelle une CCD. La caméra la plus misérable que vous achetez, le film actuellement, il contient des CCD. Le CCD, c'est une petite merveille. Pour les militaires qui rampent, on a développé des choses extraordinaires. C'est une petite merveille qui fait 7 mm sur 7 mm et dans lequel vous avez 300 000 cellules photoélectriques indépendantes sur lesquelles vous mesurez l'intensité et la calculatrice. Alors, vous mesurez cette intensité, vous pouvez la mesurer de façon quantitative. Et là, j'avais 300 000 canaux. Pour avoir 300 000 canaux au CERN d'électronique indépendante, ça m'aurait coûté une fortune. Là, une CCD, ça coûte 10 000 francs. Hein? Français, même pas. Alors, je tenais donc le bon bout et je me suis dit, je vais chercher les reculs d'atomes dans un certain volume produit par la masse cachée. Puis j'ai calculé qu'il me faudrait pour ça trouver 5 millions, un tunnel, une vingtaine de collègues. Je commençais à être vieux, je me suis dit, je vais résoudre un problème beaucoup plus simple et beaucoup plus excitant. Chez les biologistes, quand on ouvre une revue de biologie, on trouve des images hideuses comme ça. Hein? Ça, ce sont des protéines que l'on a séparées en les diffusant dans un sens et dans l'autre. Et on sait séparer environ 3000 protéines comme ça. Et c'est une technique fondamentale. Un article sur 3 a une image de genre, soit des traits, soit des points. Et ce qu'ils font, ils mesurent l'intensité, ils regardent la position, ils se disent il existe ou il n'existe pas. Il y a des études passionnantes faites avec ça. Je me suis dit, la masse cachée, c'est très bien, mais là, il y a quelque chose d'un peu mieux. J'ai donc supprimé mon grand espace de dérive et j'ai mis directement contre l'espace de multiplication, une tranche de rein de rat. Et ma vie a été bouleversée par cette tranche de rein de rat. Il y a des gens qui vous racontent, on trouve ça dans des romans à deux sous, qu'il vivait bien, il avait une nombreuse famille, il a rencontré une femme de très grande beauté et rapidement après, il fut ruiné. Vous remplacez la femme de très grande beauté par ma tranche de rein de rat. Et vous avez exactement mon histoire. Parce que voilà exactement ce que j'ai obtenu. Voilà la tranche de rein de rat qui avait été exposée pendant 3 mois. Elle était marquée avec du tritium. C'est un hydrogène 3 qui vit 11 années et qui émet une radioactivité avec une énergie très faible. Vous avez ça dans toutes les montres. Les montres lumineuses que vous voyez la nuit, c'est un corps phosphorescent avec le tritium incorporé dedans parce que ça ne traverse rien du tout. Ça ne présente aucun danger. Vous trouvez ça aussi dans les bombes à hydrogène. Maintenant, le tritium, je parle. En tout cas, c'est rien du tout. Mais ils détestent travailler avec parce qu'attendre 3 mois pour avoir l'information, c'est détestable. Nous avions obtenu ça en une après-midi et nous demandions au computer, à la calculatrice, de nous donner, par exemple, tracer un trait là et donnez-nous le développement de l'intensité et on voit tous les 50 microns. Vous voyez ici une structure, ce sont les tubules de la médulla du rat. Une fois que j'ai obtenu ça, je me suis dit, puis ça présente d'autres avantages. C'est linéaire, il y a une énorme gamme dynamique, dans un film, voilà la réponse d'un film, par exemple. Vous voyez, ça sature très rapidement. Voilà la réponse de notre détecteur. Vous voyez, il y a un tout petit rond là. Vous voyez bien que même là, il y a une réponse linéaire. Les biologistes à qui nous avons montré ça étaient fous de plaisir. Ils ont trouvé de l'argent dans une fondation et maintenant ils travaillent en routine avec ça. Et voilà les résultats qu'ils ont. Je ne veux pas vous les décrire, mais en tout cas, j'ai un appareil à l'Institut Pasteur qui permet de faire également en quelques jours ce qu'il aurait été impossible de faire avant. Alors, j'étais extrêmement satisfait de ça. Et il y a une petite entreprise qui est en train d'essayer de commercialiser ça et d'industrialiser ça. Et ça, c'est très difficile, c'est un autre métier. C'est un métier que je ne vais pas exercer parce que j'ai découvert rapidement que j'étais très mauvais dans cet art. Je suis donc content qu'à l'Institut Pasteur et à l'hôpital de Genève, il y a deux appareils qui marchent. Et je suis en train d'essayer de transférer ça à des gens qui savent mieux que moi le multiplier par 1000. Et je voudrais maintenant venir au futur. Les physiciens du CERN et les physiciens américains sont en train d'essayer de faire du lobbying pour avoir une machine qui permette de gagner encore en énergie, qui permette de produire la fameuse particule X, qui est la particule qui appartient à ce champ qui est responsable de la masse de toutes les particules. Ils ont l'impression que s'ils trouvent ça, j'ai même un ami qui a publié un livre, ils appellent ça « The God Particle », la particule divine. Et alors, ça pèse peut-être 1000 fois la masse du proton, on ne sait pas très bien, ou 100 fois, on ne sait rien dessus. Et les gens ont imaginé une machine, ça c'est un événement, c'est une collision qui doit être, c'est 20 000 GeV sur 20 000 GeV. Et voilà par exemple au CERN, le détecteur qu'on a imaginé, ça c'est pas des lilliputiens, c'est des types de taille normale. Et vous voyez le détecteur qu'il y a, et au centre, il y a un détecteur qui est destiné à trouver la trajectoire des particules. C'est un problème diabolique. Tous les détecteurs que nous avons, ils collent pas. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Elle dit, je vois des choses, c'est très simple ce que je vois là-dedans. Elle m'a montré qu'elle voyait là-dedans la même chose qu'à la calculatrice. C'est l'événement caché là-dedans qui va être déterré. Et je lui dis, c'est tout ce que tu vois? Elle m'a dit, non, je vois le nom du type qui va avoir le prix Nobel en l'an 2010. Parce qu'il va faire le détecteur qui va permettre de faire ça. Je lui ai dit, c'est qui? Alors elle m'a dit, je te le dirai jamais, t'es trop bavard. J'ai essayé de doubler ou de tripler la mise. Elle m'a dit non, il y a des gens qui ont une conscience professionnelle, même dans ce métier-là. Alors, elle m'a dit, ils sont peut-être dans une des audiences devant lesquelles tu vas parler, les petits jeunes, et ça pourrait les perturber gravement, je te le dis pas. Bon, j'étais obligé de m'incliner, mais je voudrais vous dire la chose suivante. Les détecteurs qui vont être créés pour cette machine, et ils sont déjà en voie de création, et qui vont permettre d'avoir ces trajectoires, ce sont des détecteurs qui mesurent le dépôt d'énergie dans, par exemple, des détecteurs solides, qui ont une centaine de microns d'épaisseur, avec une précision de l'ordre de 10 microns. 10 microns sur 10 microns, en deux dimensions. Ils ont une efficacité de 100% pour les rayons X, qui ont une trentaine de kilovolts. Et ils peuvent aller très vite parce qu'il y a une électronique qui est incorporée sur chaque pixel. On appelle pixel le petit carré de 20 microns sur 20 microns qu'il y a dessus. Des centaines de millions de francs sont investis pour faire ces détecteurs qui sont un must. Quand ils seront faits, ce seront les meilleurs détecteurs pour faire la radiographie, par exemple, du sein. Actuellement, si on voulait faire la radiographie du sein de toutes les femmes dans un pays, pour voir si on peut détecter de façon préventive des cancers, il y a des gens qui vous disent « vous allez induire autant de cancers que vous en détectez ». Donc, c'est pas possible. Si vous gagnez un facteur 100 sur l'intensité, vous avez fait un pas en avant énorme. Et là, il n'y a pas besoin d'être ni lire dans le marc de café, ni d'être un grand devin pour voir que ces instruments vont être forgés d'ici l'an 2000. C'est une retombée de la physique fondamentale destinée à exclusivement au sexe des anges, physique des particules, le X, eh bien, c'est une retombée fondamentale qui justifie à mes yeux, à elle seule, l'investissement qui doit être fait. Et avant de m'arrêter, je voudrais vous dire quand même que la physique de hautes énergies, c'est quand même quelque chose de merveilleux. On est arrivé au fait que les composants ultimes de la matière s'organise d'une façon qui est pas compréhensible, mais qui est comprise, et les noyaux des atomes qui sont faits avec des neutrons et des protons sont constitués de quarks. Et la chose merveilleuse, c'est que les quarks, ils ont une charge 2/3 ou 1/3. Quand je suis rentré dans ce domaine, la charge, elle était 0 ou 1, hein, ou moins 1. Maintenant, on est arrivé au concept que c'est une fraction. On sait pourquoi, on comprend pourquoi les quarks détestent sortir avec leur charge 1/3 ou 2/3. Ils s'habillent instantanément de façon à avoir pudiquement la charge 1 ou moins 1. Les choses ne sont pas si simples parce que quand on vous dit qu'il y a du charme et de la beauté, c'est pas le genre de beauté subtile que vous avez, hein. La beauté, elle est de plus 1, moins 1. L'étrangeté, elle est de plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. Simplement, les physiciens, ce sont des gens de chair. Et pourquoi voulez-vous qu'ils vivent en appelant ça, je sais pas, la charge numéro 1 ou la charge numéro 2? Ils préfèrent ça, appeler ça l'étrangeté ou la beauté, c'est, ou le charme, c'est quelque chose d'arbitraire. Les leptons, on a trois familles de quarks, on a trois familles de leptons. Cette histoire de 3 et 3, c'est quelque chose de très profond. Il existe également des bosons. Les bosons, il existe une table comme ça que j'ai simplement oubliée. Et je voudrais vous dire que il y a des beaux jours encore pour les gens qui voudront se lancer dans la physique des particules, avec en plus la perspective que lors du travail qu'ils feront dans ces grandes équipes collectives qui sont destinées à aborder le problème des grands accélérateurs, il y aura une possibilité pour eux de s'enfuir en faisant soit de la médecine, soit de la biologie, soit d'autres choses. Tous les domaines où il y a besoin de localiser du rayonnement seront des domaines qui auront d'étroites connexions avec notre milieu.
Ainsi se termine cette conférence destinée aux lycéens sur la physique de l'énergie, la physique des particules. Vous venez donc d'entendre le cours de Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992 et membre de l'Académie des sciences. Pour en savoir plus sur les activités de Georges Charpak et plus généralement sur la physique des particules, nous vous conseillons le site internet du CERN au www.cern.ch. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Canal Académie.